Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui effectuer donc la correction, la audio du sujet quelle taille pour les mailles d'un tamis qui nous permettra donc ce sujet de réviser la diffraction et les interférences des ondes lumineuses. Alors la première partie porte sur la vérification de la valeur de la longueur d'onde de la diode laser qui est utilisée pour cette expérience. Première question 1.1, une question qui tombe régulièrement, c'est donc nommer le phénomène physique responsable à des taches lumineuses qu'on peut observer sur l'écran. Donc il s'agit bien sûr du phénomène de diffraction. Et donc en deuxième partie, on lui demande de discuter qualitativement de l'influence de la largeur de la fente et de la longueur d'onde de l'onde incidente sur le phénomène observé. Donc discuter qualitativement, contrairement à si on avait une explication quantitative, qualitativement. C'est juste dire si par exemple j'augmente la longueur d'onde, est-ce que ça va augmenter le phénomène de diffraction ou au contraire le diminuer, ce qui va être plus visible, moins visible. Donc le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que la largeur de la fente elle est petite, que l'obstacle est petit. On se souvient si on a un obstacle petit, ça va avoir, il va y avoir un phénomène de diffraction plus important, la tache centrale va être plus importante. Ce qu'on appelle aussi l'écart angulaire, hein, θ donc va être plus important si la fente est plus fine. Au contraire, si la longueur d'onde augmente, le phénomène de diffraction va être plus important, l'écart angulaire va être plus grand. C'est ce qu'on vient de dire se résume dans la formule qui est rappelée juste après. 1.2, la relation θ égale lambda sur a. On constate bien que si la longueur d'onde lambda est plus importante, θ va être plus grand. Et au contraire, si a est plus petit, θ va être aussi plus grand. Donc attaquons la question 1.2. Donc on rappelle que l'angle θ donc, est donné par cette relation et on considère que tangente θ, c'est à peu près égal à θ pour les petits angles, c'est-à-dire θ très inférieur à 1 radian. Déterminer l'expression de l'angle θ en fonction de la largeur L, grand L de la tache centrale et de grand D. On déduit l'expression de la longueur d'onde lambda en fonction de L, A et D. Alors c'est une question très classique en A de la diffraction de refaire cette démonstration. Donc il faut avoir à l'esprit qu'on va utiliser donc une fonction trigonométrique qui est la tangente, comme on en parle juste avant. Donc tangente θ. C'est côté opposé sur côté adjacent dans le triangle rectangle qui a donc pour côté opposé L sur 2 et pour côté adjacent grand D. On a donc tangente θ qui est à peu près égal à θ qui est égal à L sur 2 sur grand D, ce qui nous donne que θ est égal à L sur 2D. Et comme on doit le savoir, mais ici c'était rappelé que θ égale lambda sur A, on a donc une égalité. Θ c'est à la fois lambda sur A et c'est à la fois L sur 2D, ce qui nous donne lambda sur A égale L sur 2D, et finalement, pour se débarrasser du sur A, on multiplie donc par A, ce qui nous donne donc lambda égale L fois A sur 2D. La question 1.3 est de déterminer la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée en exploitant la courbe obtenue donc sur la figure 3, et la comparer à la valeur indiquée par le constructeur. Donc sur la figure 3, on va mesurer la largeur L de la tache centrale qui nous intéresse, sachant qu'on la mesure entre les deux minima qui correspondent au plus grand pic. Donc on voit que ces deux minima, on constate, sont à peu près donc à 18 mm du côté droit du grand pic et puis à 9 mm du côté gauche du grand pic, ce qui donne une largeur de tache centrale évaluée à peu près 9 mm. On sait donc d'après la question d'avant que lambda égale L fois A sur 2D. On fait attention dans ce genre de question à exprimer toutes les grandeurs dans la même unité pour être cohérent. Si on est dans le système international d'unités, on va choisir les mètres, mais ça serait possible de faire le même calcul du coup si tout était en millimètres par exemple, ou si deux grandeur au numérateur et au dénominateur sont dans la même unité pour être cohérent en termes d'unité. Ici, donc, on va tout convertir en mètres. Donc, lambda est égal à L, donc grand L, qui vaut, donc, on vient de le dire, 9 mm, en mètres 9, 10, moins 3, multiplié par A, qui nous était donnée dans les données, la largeur de la fente qui est de 80 micromètres, donc fois 90 moins 6, divisé par 2 fois grand D, donc la distance fente-écran qui est de 56 cm, à convertir en mètres, donc 2 fois 56, 10 moins 2. On fait le calcul sur la calculatrice, ça nous donne 6,4 fois 10 moins 7 mètres. Exactement 643 nanomètres à l'arrondi, ou 6,4 fois 10 moins 7 mètres en gardant donc deux chiffres significatifs. À noter que pour les calculs et conversions qu'on a fait, on a utilisé des sous-multiples à connaître tout le temps, qui sont les millimètres, les centimètres. Il faut convertir très vite, 1 mm 10 moins 3 mètres, 1 cm 10 moins 2 mètres, les micromètres également, 10 moins 6 mètres, et puis on utilise aussi très souvent pour la lumière les nanomètres, 10 moins 9 mètres. C'est à savoir très vite pour gagner du temps pour les calculs et surtout pour ne pas se tromper et avoir des bons automatismes. Donc le fabricant indique que lui et donc la diode laser est à 650 plus ou moins 10 nanomètres, c'est-à-dire compris entre 640 nanomètres et 660 nanomètres. On trouve 643 nanomètres. Donc en tenant compte de cette incertitude de 10 nanomètres, on constate que notre mesure elle est bien compatible avec celle du fabricant. La deuxième partie va nous permettre de réviser la notion d'interférence à travers la partie qui s'intitule calibrage du tamis de récupération. Donc on a différentes figures. La figure 4 nous montre le montage utilisé, où l'échelle n'est pas respectée. La figure 5, le schéma du maillage du tamis, le tamis qui va être utilisé. La figure 6, la figure d'interférence qui est obtenue. Et puis enfin, la figure 7, avec la tache centrale, on nous dit que cette figure d'interférence est à l'échelle 1-1. Donc ce qu'on va mesurer correspond en réalité à la donnée qu'on aura besoin, dont on aura besoin tout à l'heure. Question donc 2.1. Expliquer brièvement sans calcul l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférence lumineuse. On voit d'après le maillage que chaque maille du tamis va se comporter comme une source de lumière et toutes ces sources de lumière vont pouvoir interférer du coup entre elles. Donc ça va nous donner d'un côté des zones brillantes qui correspondent à des interférences constructives où les ondes, comme elles arrivent en phase, ça va additionner leur amplitude et donc faire une onde qui va être davantage lumineuse que la lumière au départ. Et au contraire, on va avoir des zones sombres qui sont causées par des interférences destructives. Ces ondes vont arriver en opposition de phase et donc leur amplitude va s'annuler, ce qui crée donc ces zones sombres. Donc vocabulaire important, interférence constructive, interférence destructive. Ce n'était pas demandé ici, mais une question qui pourrait tomber, c'est de donner justement la différence de marge delta dans le cas d'une interférence constructive. On sait que delta doit être égal à K lambda, et au contraire, dans une interférence destructive, où ça va être proportionnel à la moitié de la longueur d'onde, puisque la différence de marge va être proportionnelle à la moitié de la longueur d'onde, puisque elles arrivent, ces ondes, en opposition de phase. Question 2.1, question 2.2. Donc évaluer la valeur de l'interfrange I en explicitant donc la méthode suivie. Donc c'est valable pour tous les phénomènes où on a une certaine périodicité. Pour être le plus précis possible, on va mesurer plusieurs fois la période. Ainsi, on fait une moyenne et on est plus précis que si on mesure une seule des périodes. C'est valable pour une périodicité temporelle, mais aussi comme ici une périodicité spatiale. Donc ici, on voit qu'on peut mesurer jusqu'à 4 interfranges, donc 4i. 4i mesure 5,9 cm sur la figure 7, ce qui veut dire que i mesure à peu près 1,5 cm. Lors de la mesure à la règle, on a une incertitude qui correspond à une incertitude qui correspond à une demi-graduation. Donc u de i, c'est à peu près 0,05 cm, un demi-millimètre. On peut accepter aussi une incertitude carrément à 0,1 cm pour être sûr au niveau de notre incertitude que l'on va faire après. Donc c'était la question 2.2. Maintenant question 2.3, calculer B puis évaluer U de B, donc l'incertitude type sur B. Alors pour calculer donc B, on va utiliser donc la relation qui nous est rappelée, mais qu'il faudrait aussi connaître par cœur, sur l'expression de l'interfrange. Donc c'est égal à lambda fois D sur B. Donc où lambda est la longueur d'onde de la lumière, D est la distance entre le tamis et l'écran, et B c'est ici le côté d'une maille. Un carré de maille. Donc nous on veut B, on va retourner l'expression, donc rapidement aussi. Donc B est égal à lambda fois D sur I. Donc ce qui va nous donner finalement, par application numérique, donc lambda, on prend donc le lambda qui était fourni dans l'énoncé, c'est-à-dire 650 nanomètres, donc 650 fois 10 moins 9 mètres, fois D, donc la distance entre la maille, les mailles et puis l'écran est de 7,75 m, donc fois 7,75 m, divisé par l'interfrange dont on a déterminé la valeur tout à l'heure à 1,5 cm, donc 1,5 fois 10 moins 2 mètres. On réalise le calcul sur la calculatrice et en gardant deux chiffres significatifs, on trouve une valeur pour B de 3,4 fois 10 moins 4 mètres. Donc on a maintenant la valeur de B. On nous demandait en deuxième partie de la question également d'évaluer donc l'incertitude type U de B. Donc on a pour ça l'incertitude type, on nous dit qu'il peut se calculer à partir de la relation toujours assez complexe mais qui nous sera toujours redonnée, à s'entraîner bien chez soi, le refaire une ou deux fois, même sur d'autres exercices comme en chimie, pour aller vite sur le calcul sur la calculatrice avec la racine carrée, la somme des carrés, etc. Donc ici on a u de b sur b, donc qui vaut racine carrée de u de d sur d au carré, plus u de i sur i au carré, plus u de lambda sur lambda au carré. Donc u de b, si on passe le sur b de l'autre côté, ça devient u de b égale b fois donc la racine carrée. On remplace donc par les valeurs, donc sans trop arrondir pour pas trop perdre en précision. Donc on a 3,358 donc fois 10 moins 4, ça c'est la valeur de B qu'on a calculée juste avant. Fois racine carrée donc de U de D, donc l'incertitude sur la distance était donnée dans les données de l'expérience. Donc on nous disait que D égale 7,75 plus ou moins 0,03 mètres, plus ou moins 3 cm. Donc ici, donc ça fait 0,03 sur 7,75 au carré, plus l'incertitude sur i, donc on a dit un demi-millimètre, donc 0,05 là ici en centimètres, sur 1,5 cm pour la valeur de i, le tout au carré, plus donc u de lambda, donc c'était 10 nanomètres par rapport à 650 nanomètres, le tout au carré. On calcule sur la calculatrice et on trouve à peu près, donc 1,3 fois 10 puissance moins 5 mètres. On arrondit toujours une incertitude comme celle-là à un seul chiffre significatif, donc par excès, donc c'est-à-dire 1,3 par excès, ça va être environ égal à 2, donc U de B égale 2 fois 10 puissance moins 5 mètres, ou aussi pour garder la même puissance, 0,2 fois 10 puissance moins 4 mètres. Ce qui veut dire que finalement B vaut 3,4 plus ou moins 0,2 fois 10 moins 4 mètres. Enfin, donc dernière question pour savoir si le tamis va être le tamis qu'on étudie depuis tout à l'heure permet bien de récupérer les artémies voulues, c'est-à-dire les artémies voulues ont une taille qui sont supérieures à 150 micromètres. Alors pour ça, on peut le voir là comme schématisé là sur le schéma de la correction. Donc on peut constater que finalement, B, donc c'est égal à T, la largeur du trou, plus F, la largeur du fil, ce qui veut dire qu'on va pouvoir calculer la largeur du trou pour voir si les artémies ont une taille suffisante pour ne pas passer à travers ou au contraire vont passer au travers. Donc, d'après la relation, on peut donc calculer la largeur du trou, donc ça nous donne B moins F. Donc B, nous l'avons calculé à la valeur, à la question précédente, 3,4 fois 10 moins 4 mètres, moins donc la largeur du fil, donc cette largeur du fil qui nous est donnée dans les données. On nous dit que la largeur du fil plastique constituant le tamis est égale à 230 micromètres, donc ça nous donne 3,4 fois 10 moins 4 mètres moins 230 fois 10 moins 6 mètres, ce qui nous donne à peu près 1,1 fois 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire 110 micromètres, qui est inférieur à 150 micromètres. Même si on considère la valeur maximale de B, donc c'est-à-dire 3,4 plus 0,2 10 moins 4 mètres, donc ça fait 3,6 10 moins 4 mètres, on trouve par le même calcul une largeur du trou de 1,3 fois 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire 130 fois 10 moins 6 mètres ou 130 micromètres, qui est toujours inférieur à 150 fois 10 moins 6 mètres, 150 micromètres. Ce qui signifie que les artémies sont plus larges que le trou, donc elles vont être bien récupérées dans le tamis. Voilà, je vous dis à bientôt.